Chers amis, chers camarades, la conclusion politique tirée par Hollande après la grande gifle électorale subie par le Parti socialiste aux élections municipales a été de nommer Manuel Valls à Matignon. Cette nomination ne représente en rien un tournant dans le quinquennat de Hollande. Car depuis 2 ans, ce que le MEDEF exige, Hollande l'exécute. Le patron voulait remettre en cause le CDI, les licencier plus facilement. Hollande a transformé en loi l'accord national interprofessionnel rédigé par le MEDEF et signé par quelques syndicats. Le PS dans l'opposition avait dénoncé la réforme des retraites de Sarkozy. Au pouvoir, il l'a aggravée. Les patrons estimaient qu'ils payaient trop d'impôts. Hollande leur a offert le crédit d'impôt compétitivité emploi. Insuffisant, il a inventé le pacte de responsabilité qui offre de nouvelles exonérations d'impôts et de cotisations sociales. En choisissant Valls, Hollande n'a voulu laisser aucun doute. Il allait poursuivre en l'aggravant cette politique anti-ouvrière. Car il a choisi celui qui a affiché les positions les plus droitières dans le Parti socialiste. Celui qui a dénoncé les 35 heures comme un boulet au pied du patronat. Celui qui a singé Sarkozy comme premier flic de France, allant jusqu'à dénigrer les Roms, incapables de s'intégrer selon lui. Alors, si Valls se distingue de héros, c'est par sa morgue et la brutalité avec laquelle il annonce ses mesures. Son plan d'austérité est une déclaration de guerre aux classes populaires. Les 10 milliards d'économies prévues sur l'assurance maladie sont une mesure odieuse qui rendra encore plus difficile l'accès aux soins pour des millions de malades. La poursuite pour 3 années supplémentaires du gel du salaire de plus de 5 millions de fonctionnaires est scandaleuse. La grande majorité des fonctionnaires ont des petits salaires. La moitié des fonctionnaires territoriaux gagnent moins de 1 600 euros net. Et dans les hôpitaux, la moitié du personnel gagne moins de 1 800 euros. Et c'est bien pourquoi les dizaines de milliers de salariés qui ont manifesté hier un peu partout dans le pays contre le blocage des salaires, contre l'austérité et la dégradation de leurs conditions de travail ont eu bien raison de le faire. Hier, pour l'essentiel, seules les fédérations syndicales de la fonction publique appelaient à la grève et à la manifestation. Programmée avant l'annonce du plan Valls, cette journée aurait dû servir de point de ralliement à tous ceux qui subissent les attaques du gouvernement, qu'ils soient salariés du public ou du privé, qu'ils soient retraités ou chômeurs. La provocation de Valls aurait exigé une réponse immédiate de la part des directions des centrales syndicales. Ne serait-ce qu'un langage ferme pour affirmer qu'il n'est pas question de les accepter. À la place, les travailleurs n'ont eu droit qu'aux lamentations d'un berger de la CFDT et aux pleurnicheries de Le Pen ou Mailly de la CGT et de FO. Certes, les directions syndicales, pas plus que quiconque, n'ont les moyens de déclencher la riposte collective et massive qui seule peut faire reculer le gouvernement et le patronat. Mais elle devrait la préparer en expliquant clairement que ce gouvernement est un adversaire dont on ne doit rien attendre sinon des coups. Elle devrait proposer un plan de riposte. Elle devrait chercher à unifier les luttes défensives contre les fermetures d'entreprises qui se déroulent un peu partout, plutôt que de les laisser s'émietter. Et en s'y refusant, en acceptant de négocier sur le terrain choisi par le patronat et le gouvernement, les chefs des confédérations syndicales, qui se posent pourtant en représentants du monde du travail, montrent qu'ils sont 1 000 fois plus proches des dirigeants de la bourgeoisie qu'ils ne sont des travailleurs. Alors, comme à chaque explosion sociale dans le passé, il faudra la colère et la combativité des travailleurs pour les pousser en avant et les forcer à prendre des initiatives sérieuses. Et c'est aussi la raison pour laquelle Malgré toutes les limites de ces journées d'action, il faut que les travailleurs les plus combatifs et les plus conscients en profitent pour exprimer leur colère et leur envie d'en découdre. Face aux mesures de Valls, quelques dizaines de députés du PS ont affiché une opposition d'opérette. Affolés par la baffe électorale de ces dernières municipales, ils se sont fait un peu prier pour avaler la couleuvre. Et le minuscule recul de Valls sur les retraites inférieures à 1 200 euros par mois, dont la revalorisation donnera moins de 13 euros par mois aux retraités modestes, a suffi pour faire entrer dans le rang la plupart de ces grognons. Quant aux 41 députés, pour qui la pilule du plan Valls restait encore un peu trop amère, ils n'ont quand même pas poussé leur courage politique jusqu'à voter contre. Et à une semaine des élections européennes, au cours desquelles le Parti socialiste va subir un nouveau désaveu cinglant, Valls vient d'annoncer une petite ristourne fiscale pour les plus modestes. Alors qu'il est en train de nous voler 50 milliards, il daigne en rendre un ou deux pour que les retraités ou les smicards qui ont payé les impôts pour la première fois l'an dernier n'en payent plus cette année. Mais ce petit recul, une promesse électorale de plus, ne trompera personne. Du côté des dirigeants du Parti communiste et du Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, c'est à peine mieux. Eux qui ont participé à l'élection de Hollande en 2012 et qui ne manquent pas une occasion de le rappeler, pleurnichent aujourd'hui sur leur déception. Ils dénoncent les mesures de Valls, mais à peine plus fort que la gauche du PS. Et au fond, leur ambition se limite à détacher ces notables du PS pour pouvoir tous ensemble offrir, comme ils disent, une alternative à gauche. Mais depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, ces dirigeants dits de la gauche n'ont jamais eu d'autre perspective à offrir aux travailleurs que de bien voter pour avoir un bon gouvernement de gauche. Mais ces gouvernements de gauche, depuis au moins Mitterrand, pour ne pas remonter plus loin, ont tous mené une politique anti-ouvrière. Et à ce titre, les dirigeants du Front de gauche portent une responsabilité écrasante dans la démoralisation et le dégoût vis-à-vis de la politique qui règne dans notre camp. Et c'est bien pourquoi les travailleurs ne peuvent leur accorder aucune confiance pour l'avenir. Au fil des élections, les gouvernements se relayent, les têtes changent, mais les lois et les mesures mises en œuvre sont toutes dans le même sens. Servir les intérêts de la toute petite minorité de privilégiés qui possèdent les usines, les banques, la grande distribution. Et à chaque nouveau gouvernement, les coups contre les travailleurs sont plus durs, car la crise économique s'aggrave. Comme le marché capitaliste ne s'étend pas, et même qu'il se rétrécit, entre autres à cause de tous les plans d'austérité qui réduisent le pouvoir d'achat, la concurrence entre les groupes capitalistes s'intensifie. Ils cherchent constamment à baisser leurs coûts de production pour augmenter leurs profits et sans créer de nouvelles richesses, sans innover et sans investir dans la production. C'est cela qu'ils appellent la compétitivité. Leur compétitivité, cela signifie des salaires toujours plus bas, des rythmes de travail intenses, une précarité toujours plus grande. Leur compétitivité, cela signifie que le chômage s'aggrave et que notre pouvoir d'achat recule, que les nouvelles générations vivent plus mal que les précédentes. Leur compétitivité, c'est un État à leur disposition, prêt à les aider par tous les moyens, en prenant dans les caisses publiques, en s'endettant, en privatisant des pans entiers des services publics, en fermant les hôpitaux, les écoles, les postes et en diminuant les prestations sociales. Alors quand Valls répète avec cynisme que nous vivons au-dessus de nos moyens depuis des décennies, c'est pour justifier de nouvelles attaques en préparation contre la classe populaire. Car qui vit au-dessus de ses moyens? Les salariés, dont le pouvoir d'achat est rogné d'année en année? Le smicard qui n'y arrive plus? Les précaires? Les jeunes? qui galèrent de petits contrats en temps partiel, les retraités aux pensions insuffisantes, ceux qui gagnent 700 ou 800 euros par mois, les chômeurs, les titulaires du RSA qui doivent se débrouiller avec des allocations de survie, les personnes handicapées avec au maximum 700 euros par mois pour vivre. Car bien sûr, Valls ne parlait pas des grands patrons et des financiers qui, eux, ne savent plus quoi faire de leurs milliards et n'en ont jamais assez. Il ne parle pas de Gattaz, le patron du MEDEF, qui a augmenté l'an dernier ses rémunérations de 29% en touchant au total 420 000 euros. Ce même monsieur Gattaz, qui trouve le SMIC trop élevé et réclame sa baisse, a encaissé en moyenne chaque mois 35 000 euros, une somme que la grande majorité des travailleurs ne gagne pas en une année. Non, Valls ne parlait pas de ces gens-là, parce qu'il en est le serviteur. Il est le serviteur des capitalistes pour qui ça déborde. Il y a tellement de liquidités que les banques se battent entre elles pour prêter de l'argent, même à ceux comme la Grèce ou le Portugal, à qui elles ne voulaient plus prêter le moindre centime il y a 2 ans. Il y a tellement de liquidités que les opérations de fusion-acquisition sont reparties de plus belle. Pour racheter SFR, sans réaliser le moindre investissement, sans créer la moindre richesse supplémentaire, Numéricable a rassemblé plus de 13 milliards d'euros. Bouygues a surenchéri, en vain certes, mais en mettant 15 sur la table. Aujourd'hui, le même Bouygues ose invoquer son échec et la concurrence de Free pour préparer ouvertement un plan de 2000 licenciements dans la téléphonie, soit le quart des effectifs. Bouygues pouvait donc débourser 15 milliards d'euros pour acheter SFR et n'aurait même pas les moyens de maintenir tous les emplois de sa branche téléphonie. Bouygues, encore lui, veut retirer ses billes du groupe Alstom, dont il possède 30% du capital. Et cela a ouvert l'appétit de 2 grands géants de l'industrie électrique, General Electric et Siemens, qui ont chacun sorti de leur poche 10 milliards d'euros pour acheter la branche énergie du groupe Alstom. 10 milliards d'euros, c'est le coût de construction d'une centaine d'hôpitaux de 200 lits. Et des familles comme Bouygues ou Pinault en France, Siemens en Allemagne, possèdent ces sommes astronomiques ou peuvent les mobiliser en claquant des doigts. Ces capitaux, ils proviennent directement de l'exploitation de centaines de milliers de travailleurs et des sacrifices imposés partout aux classes populaires. Cette grande bourgeoisie, dans sa quête sans fin de profit, joue au monopoly avec toute l'économie, vendant, achetant, licenciant les travailleurs, sans bien sûr qu'ils aient leur mot à dire. Pour elle, les travailleurs ne sont que de la chair à produire, qu'elle veut exploiter toujours davantage. Eh bien, si nous ne voulons pas être piétinés au cours de la guerre que se livrent les groupes capitalistes, et être ainsi inexorablement poussés vers la misère, il va falloir utiliser notre poids dans l'économie et nous battre avec nos propres armes de classe, les grèves et les manifestations. Oui, la classe ouvrière aurait largement la force de lutter contre le patronat. Oui, elle aurait la force d'imposer le retrait de toutes ces mesures anti-ouvrières du plan Valls et plus généralement de toutes les mesures prises depuis l'accession de Hollande au pouvoir, comme celles prises par Sarkozy avant lui. Souvenez-vous d'un Juppé, droit dans ses bottes, obligé de remballer sa réforme sur la retraite des fonctionnaires en 1995 à cause d'un mouvement de grève. Ce qui manque actuellement à la classe ouvrière, c'est la confiance dans sa propre force collective, dans sa capacité de lutter. C'est la conscience claire de qui sont ses vrais ennemis. C'est la conviction qu'il n'y a rien à attendre d'un changement de gouvernement, qu'il n'y a pas de sauveur suprême et qu'il faudra compter que sur nos propres forces. Bien sûr, on ne peut pas déclencher artificiellement de telles luttes. Et bien sûr, chacun peut mesurer autour de soi, dans son entreprise, dans son entourage, la démoralisation et la résignation. Mais ce qui est possible, c'est d'affirmer sa conviction que notre avenir passe par ces luttes. C'est d'en défendre autour de soi les objectifs vitaux. C'est indispensable pour éviter que les luttes futures ne soient dévoyées, une fois de plus, vers des voies de garage qui laissent intacte la dictature de la bourgeoisie. Eh bien, c'est précisément la raison d'être de notre liste dans ces élections européennes. Exprimer et propager les objectifs pour lesquels les travailleurs devront se battre, les faire approuver par le plus grand nombre d'électeurs. Pour résorber le chômage, il faudra commencer par interdire les licenciements. Le travail ne manque pas, mais les patrons font produire toujours plus, avec moins de salariés, en licenciant, en fermant des usines, en intensifiant la productivité. En ce moment même, le groupe Intermarché organise la fermeture de ses deux bases logistiques, de Miribel et Rérieux d'Orlin, qui emploient au total plus de 500 travailleurs. Il prévoit d'en construire une toute neuve à Saint-Quentin-Fallavier, ultra sophistiquée et largement automatisée, qui tournera avec moins de 200 personnes. Depuis une semaine, les travailleurs de ces deux bases multiplient les journées de grève contre la fermeture et contre les conditions de départ qui ont été proposées. Puisque le groupe Intermarché a des moyens d'investir dans une nouvelle plateforme logistique, c'est qu'il a plein d'argent disponible, et bien qu'il réduise massivement le temps de travail sans perte de salaire et conserve tous les emplois. Dans toutes les entreprises, s'il y a moins de travail, eh bien, il faut le répartir entre tous sans diminuer les salaires. Il faut augmenter massivement les salaires et les retraites pour assurer un niveau décent. Et pour garantir leur pouvoir d'achat, il faut les augmenter chaque mois en fonction de la hausse des prix. C'est cela qu'on appelle l'échelle mobile des salaires, des pensions, des allocations. Et c'est aux entreprises capitalistes et à leurs propriétaires de financer toutes ces mesures. Et s'ils prétendent que c'est impossible, qu'ils nous montrent leurs comptes. La population pourra alors constater qu'ils regorgent d'argent tiré de l'exploitation. Contrôlons ce qu'ils font de leurs milliards. Qui sont les actionnaires? Qui empoche les profits? Où est l'argent des paradis fiscaux? Pour cela, il faudra supprimer le secret des affaires derrière lequel ils dissimulent les mille et une manières utilisées par les grandes entreprises, la grande distribution ou les banques pour aggraver l'exploitation de leurs salariés, arnaquer les petits producteurs, les artisans, les consommateurs, les usagers et pour dégrader la nature. Et il y a de quoi créer des emplois dans les services publics, utiles à la population, dans l'éducation, la santé, les transports ou pour construire les logements qui manquent. Ce programme n'est pas un programme électoral. Aucune de ces mesures ne sera prise par en haut, par aucun gouvernement qui respecte le capitalisme. Ces mesures ne pourront être imposées que par une mobilisation massive et déterminée de la classe ouvrière. Mais voter pour les listes lutte ouvrière, c'est un moyen de populariser ces mesures, de montrer qu'une fraction des travailleurs en fait son programme et son objectif. Voter et faire voter pour les listes lutte ouvrière, c'est montrer que les travailleurs, les chômeurs, les retraités existent, qu'ils ont des exigences et qu'ils sont prêts à se battre pour les imposer.